La Barge Russe. Tous les jours, à 14h, avec Helmut Schwartz et Johnny Tufbeck. Russe 501, Levis and Jean Rouge Vif. Alors cette barge russe se trouve largement inspirée du livre géopolitique qui a gagné le prix du livre géopolitique en 2020, Rouge Vif, l'idéal communiste chinois de Alice Ekman. Et accrochez-vous, hein, c'est dingue. Enfin, c'est pas dingue, c'est comme ça. C'est pas, ouais, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas que c'est dingue, mais c'est comme ça que ça se passe. La première partie donc, de cet essai se constitue de 10 constats. Nous allons commencer par un extrait d'un diplomate chinois de janvier 2019. Mais le communisme est un objectif. Cela a toujours été notre objectif. Nous devons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Fin de citation. Xi Jinping élabore une vision stratégique de long terme en renforçant la planification de la Chine en politique étrangère. Ses prédécesseurs c'était moins sur moins long terme, quoi. Lui, il voit ça grand, quoi. Surtout qu'il a été réélu là en 2022. Donc, comme Lénine le prononça en 1921, faire au capitalisme une place limitée pour un temps limité, disant qu'en fait, le capitalisme, bah, c'est nécessaire pour le socialisme. Donc, le socialisme ne peut se construire en un jour et que des détours sont nécessaires pour pouvoir mieux y revenir ensuite. Deng Xiaoping, j'en avais parlé il y a de ça un an et demi, lui avait ouvert la voie en 1978. L'exemple, bon, j'ai pensé à l'exemple de Mitterrand et de la France en 1981. Donc là, lui, c'était le peuple français qui avait voulu avec une vitesse TGV et avec un gouvernement bicéphale de la 5e. Il avait voulu faire la même chose, mais sauf que lui, le socialisme, il le voulait comme ça, d'un claquement de doigts. Et les Chinois, eux, ils ne sont pas pressés. Enfin, un petit peu, mais quoique, ils prennent leur temps. Et là, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Les expressions utilisées par le gouvernement chinois ont objectif de faire triompher le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, comme il est dit de nombreuses, tout le monde de l'essai en fait. C'est toujours le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, comme dit Xi Jinping. Et il est bien possible qu'à coup ultralibéraux d'algorithmes empoisonnés, il y arrive. Je me rappelle, c'était il y a un an ou deux, en train, j'étais avec ma famille, et il y a des Chinois qui arrivent, ou peut-être même plus que ça, des Chinois qui étaient dans le train, et ils nous mitraillent de photos, quoi. Et ils nous demandaient de poser, à la limite, tu vois. Alors, c'est un peu ça, le socialisme à la chinoise. Tu fais ce qu'on te demande. Et t'as l'air d'un... C'est pas toi ce que tu veux, mais il faut que tu fasses ce qu'on te demande. En tout cas, avec cet exemple, ce souvenir que j'ai dans le train, les Chinois qui arrivent et qui nous matraquent de photos et on nous demande de poser pour eux, j'ai ce souvenir-là et je trouve que ça illustre bien, comme il dit Xi Jinping, le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Leur objectif est aussi pour gérer le quotidien des individus. Afin d'atteindre une stabilité sociale d'un ordre préétabli. L'ordre préétabli, c'est celui que je viens de vous dire, en fait. Si tu contredis Xi Jinping ou le dictateur, paf, tu vas en tôle, tu vas en prison. Et tu manges pas, tu bois pas. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai regardé il y a pas longtemps la série Trépalium, qui était sortie sur Arte à l'époque, je l'ai récupérée en DVD à la médiathèque, qui est de 2016, et c'est français. Et c'est bien. J'ai apprécié, et on retrouve ça, en fait, je vous invite à le regarder. C'est dystopique, c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant, ça m'a pris, ça me restait en tête à la fin de chaque épisode, que je faisais autre chose, j'étais obligé d'arrêter. Artistes et intellectuels se trouvent en l'occurrence censurés pour remise en cause du gouvernement, s'ils sont amenés à le faire, ou alors de la pensée de Xi Jinping, pour la nouvelle ère. Ils peuvent pas dire de trop de bêtises, quoi. Ce qui nous rappelle, bien sûr, les musiciens, Prokofiev, Chostakovitch et j'en passe, avec des symphonies qui devaient aller dans les désirs, dans les plaisirs de Staline, as known as dictateur soviétique. Maintenant, je vais vous passer un court extrait de Prokofiev, de son extrait de concerto piano numéro 3. On va continuer avec les constats. On en est au constat numéro 9. La foi marxiste est incompatible avec la pratique d'une religion. Nous devons, alors là je cite Xi Jinping, nous devons guider et éduquer les cercles religieux et leurs adhérents aux valeurs fondamentales du socialisme. C'est Xi Jinping 2016 à Pékin. Donc les membres du Parti communiste chinois doivent être d'inflexibles marxistes athées qui consolident leur foi et gardent à l'esprit la doctrine du parti. Xi, ça, c'est aussi de Xi Jinping. Donc cette contradiction reflète la position fondamentale du parti. On a entendu quand même d'inflexibles marxistes athées qui consolident leur foi en gardant à l'esprit la doctrine du parti. Donc on entend des contradictions. Et ça reflète la position fondamentale du parti. Les membres du parti ne peuvent croire qu'au marxisme. Alors bon, on sait tous qu'il y a plusieurs interprétations du marxisme, hein. Je ne sais pas laquelle il s'agit. Enfin, c'est comme les livres sacrés, hein. Chacun a son interprétation. Mais voilà, pour eux, c'est le marxisme, c'est leur livre sacré à la Chine. Donc le mot foi s'applique au... Bon, pas vraiment, mais bon. Le mot foi, je caricature, le mot foi s'applique au marxisme et athée à toutes les religions. Le pays dépend de la ferme foi et de la forte volonté de l'ensemble du parti et du peuple pour surmonter les grands défis intérieurs et extérieurs et engranger de nouvelles victoires dans la construction du socialisme à caractéristiques chinoises. Et là, en lisant ça, je me suis vraiment tout de suite rappelé, je vous en ai parlé à plusieurs reprises déjà, de Le Soleil Vert de Liu Cixin. C'est moi, carrément ça! Bon, maintenant, on va s'écouter l'international. Ouais, parce que l'international est parfois joué lors de soirées, de fêtes commémoratives en Chine.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, La raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé. Faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol le rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Comprimer la loi triche, l'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez, languir en tutelle, l'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux, pas de devoir sans droit. Apothéose, les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans les coffres forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. Guerre aux tyrans, appliquons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisifiera, loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours.
L'international sera le genre humain chinois. La Chine se soucie des autres pays, mais qui se soucie de nous? Pas vous. Mais qui se soucie de nous? Pas vous. Mais qui se soucie de nous? Pas vous. Et qui se soucie de vous? Pas moi. C'est QFD, Jacques Dutronc. Donc la Chine se soucie des autres pays et veut les faire avancer. Ah, ils sont super. Avec à la fois idéalisme et réalisme. Dans la bonne direction. Attention, celle que la Chine a empruntée. Ah ben, nous, on veut aller, on est en Afrique. On veut bien acheter toutes les terres arables et ramener tous les minerais, tout ce qu'on peut. Mais il faut, on veut aussi, on veut bien vous éduquer, mais il faut faire comme nous. Donc en fait, c'est une espèce de la colonisation, mais poste, en fait. On ne doit plus appeler colonie. Nous, on s'y est très mal pris, la France. On voulait, allez, on prend un pays, on veut qu'il y ait notre religion, tout là-bas. Et eux, la Chine, ils font pareil. Mais c'est une religion sans l'être, quoi. C'est le marxisme, et il ne faut pas être religieux. En même temps, ils ne sont pas bêtes. Mais va enlever... il doit avoir l'esprit du sacré aussi, les Chinois. Pour l'Afrique, le sacré... bref. C'est passionnant, l'histoire de la Chine. J'y pensais pas que c'était à ce point-là. Donc, alors que la Chine s'est fortement rapprochée de la Russie... Ah bon ? Mais oui. Mais tu disais pas que la Chine allait vendre la Russie ? Ah mais si, toujours. Mais toujours. Parce qu'ils se sont vachement rapprochés, mais la Chine, la Russie ne lui appartient pas, donc elle ne veut pas la vendre, mais elle va réussir à mettre la Russie sur deux chaises, quoi. Donc, suite aux nombreux dossiers déposés contre elle par l'Occident. L'Occident qui est lui-même divisé, hein, bien divisé, notamment l'Amérique avec le monde entier, la Turquie par exemple, et aussi il y a la Corée du Sud avec le Japon, qui sont des pays ultra occidentalisés, quoi. Mais ils s'entendent pas. Bon. La Chine s'est fortement rapprochée de la Russie, surtout depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée. L'Occident a fermé beaucoup de robinets à la Russie, mais la Russie s'est retournée sur la Chine. C'est pour ça que, la Chine lui achète du gaz. Si la Chine, du jour au lendemain, dit stop, on n'achète plus de gaz, là, guerre mondiale. Ah non, mais j'en sais rien, c'est bon, Donc, le système de la Chine, ça c'est à la fin, c'est Xi Jinping qui dit ça, en 2013. Le système de la Chine mûrira inévitablement. C'est également inévitable que la supériorité de notre système socialiste apparaîtra de plus en plus visible. La voie de développement de notre pays jouira d'une influence croissante dans le monde. Xi Jinping, 2013. Bon, et rapidement, avant d'oublier, au début du livre « Le Dieu venu du Centaure » de Philippe K. Dick, de 1964, une précogue, donc vous savez, précogue, c'est ceux qui sentent l'avenir, quoi, qui ont le feeling, quoi, prévoit le succès sans précédent de la Chine populaire. On est en 1964 et Philippe Kadic, selon moi, un énorme précogue, dit ça. Et le livre est passionnant. C'est en fait c'est que des précogues partout, et des précognitifs, des télépathes. Et en réalité, on est nous-mêmes tous des précogues. Il suffit de, on peut accéder à ça par l'auto-hypnose. Et l'auto-hypnose, au bout d'un moment, ça peut jouer vraiment en notre faveur pour qu'on devienne des précogues.
Vous pensez que le général de Gaulle pourrait, en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit ?
Arbitrer, qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitrer ? Nous ne sommes pas des équipes de football.
Alors, je vous ai passé, et je vous passe des extraits de la compile « Par les damnés de la Terre, des voix de lutte 1969-1988 », un double vinyle qui est, ma foi, très très intéressant, que j'avais déjà passé lorsque j'avais interviewé celle qui avait traduit Emma Goldman, l'anarchiste. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit à propos d'un discours de Vo Nguyen Gap. « Rien n'est plus précieux, 1976 », et un autre truc qu'on a écouté, « Ho Chi Minh, arbitrer le conflit de 1964 ». C'est des documents de l'INA. Et puis, la question arrive. Vous pensez que le général de Gaulle pourrait, en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit ? La réponse du président vietnamien est sarcastique. « Arbitrer ? Mais qu'est-ce que vous comprenez par le mot « arbitrer » ? Nous ne sommes pas une des équipes de football. » En effet. Alors, on est en 64, au Vietnam. Hein ? C'est Nord-Vietnam, mais la guerre n'est pas loin. Elle est dans le sud et elle arrive au nord. Nous ne sommes pas des équipes de football. En effet, quel est l'intérêt ? 10 ans après avoir vaincu la France à Dien Bien Phu, de s'en remettre à la médiation du colon déjà vaincu. Le Vietnam ne sera pas recolonisé. Le grand frère chinois, qui s'apprête à faire sauter sa première bombe nucléaire, y veille, tout en écartant la rivalité soviétique. Donc tu vois, déjà, là, les Chinois, ils voyaient... Bon, c'était avant Deng... Deng, le patron de 78, qui a libéralisé, commencé à libéraliser la Chine. Mais déjà, ils faisaient gaffe autour d'eux, tu vois. Et puis, ils étaient un peu copains avec les Soviétiques, les Russes. Quant à la France gaulliste, elle peut toujours prendre cette distance avec les États-Unis. Elle est maintenant hors-jeu. Et ça, on l'a dit il n'y a pas longtemps, les barges russes, l'Europe est morte. L'Europe est morte, la France peut faire ce qu'elle veut. Vous voyez, là, M. Macron, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire le malin ou le médiateur entre deux pays, mais ça ne sert à rien. La France, c'est fini, quoi, l'Europe. La journaliste reformule pourtant la question, entraînant une réponse évasive de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, ça veut dire qui est clair. C'était le président vietnamien. L'entretien se poursuit avec un retour coriace de la nostalgie coloniale. « Monsieur le Président, nous avons constaté avec chagrin au cours de notre voyage au Nord-Vietnam que l'influence française est devenue à peu près inexistante dans votre pays. » Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français. Et je me demande si, à votre idée, les rapports peuvent se rétablir tels que la France continue à jouer. Une sorte de rôle culturel ici. Alors là, t'as vu le retour nostalgique, mais c'est pas français, enfin c'est pas leur pays la France, en 64. Tu vois, c'est 25 ans après à Dien Bien Phu, l'Indochine, quoi. D'ailleurs, on s'était pris une grosse branlée à Dien Bien Phu. Donc, la réponse de Ho Chi Minh est diplomate, avec une ironie bien placée. La France ne veut quand même pas avoir au Vietnam l'influence qu'elle avait à l'époque coloniale. Mais comme avec n'importe quelle nation, toute coopération reste possible, y compris sportive. Excellent, Ho Chi Minh. Et pourtant, alors Ho Chi Minh, c'est aussi une ville. Et pourtant, l'une des choses les plus difficiles à comprendre pour le colon est de voir que des personnes africaines ou asiatiques, caribéennes ou océaniennes, qui maîtrisent parfaitement la culture, l'histoire et la langue du colon, ont pourtant combattu jusqu'à la mort pour rompre avec le système colonial. Parlant un français parfait, Vo Nguyen Giap, 1911-2013, il a 98 ans, mec, quand même. Hein. Non, 102 ans 102 ans. Oh, dis donc, entre dans cette catégorie de figures francophones qui ont lutté contre la France avec succès. En juin 1940, en Chine méridionale, Giap rencontre Ho Chi Minh qui mène alors des activités pour le parti communiste. Peu impressionné par cet homme dont il a tant entendu parler, Giap est néanmoins surpris qu'un homme ayant quitté son pays depuis si longtemps puisse conserver intact le parler de son terroir. Général et homme politique vietnamien, chef de l'armée populaire vietnamienne pendant la guerre d'Indochine et ministre de la défense du Nord-Vietnam durant la guerre du Vietnam, Giap est le seul général ayant vaincu à la fois l'armée française et l'armée américaine au cours de sa vie. Dien Bien Phu lance l'offensive du Tet, Saigon, autant de noms de bataille qui forgent l'admiration pour cet homme anticapitaliste et partisan de la souveraineté des peuples. Alors, j'ai été voir sur Wikipédia en même temps, parce que bon, je connais pas Vo Nguyen Giap. Et j'ai lu aussi, ils ont dû piocher là, que c'était un seul général à avoir vaincu à la fois l'armée française et l'armée américaine au cours de sa vie. Donc ça, c'est pas sûr à 100%, quoi. Hein, vu que c'est aussi sur Wikipédia, faut se méfier.
Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté. Rien n'est plus précieux aussi que le droit des peuples de vivre dans la dignité, de vivre dans la paix, une paix véritable dans l'indépendance et la liberté. Le droit des peuples de marcher de l'avant, la tête haute, dans l'égalité entière, dans son respect mutuel, vers le progrès, vers la lumière, vers l'avenir.
Donc là, on vient d'écouter Vo Nguyen Giap, Rien n'est plus sérieux de 1976. Et les relations sino-vietnamiennes étaient tendues jusqu'en 79, où ça pétait un petit peu là-bas. Mais à savoir qu'en 91, lors de la Russie qui s'est de l'URSS qui est devenue Russie, la même année, la Chine et le Vietnam ont passé un accord commercial, surtout. Donc là, selon Internet, on signe un accord de coopération économique en 1991 et le commerce passe de 32 millions de dollars en 1991 à 7,2 milliards en 2004. En 2011, le volume des échanges commerciaux bilatéraux s'élève à 25 milliards de dollars. Ça, c'est les relations sino-vietnamiennes. La barge russe, tous les jours, à 14 heures, avec Denis Turbeck.